Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Pour dire la vérité, à Gaza, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Là, j'ai trois bagages avec moi.
Partir avec tout ce qu'on a, sans regarder derrière, quand on peut partir, mais quel autre choix à Gaza? Une vague de départ. Que va nous raconter Étienne Monin? C'est l'escale reportage ce soir, d'autant que les fonds américains retirés de l'agence de l'ONU d'aide aux Gazaouis va rendre évidemment la situation encore plus intenable dans les mois qui viennent. Sous les radars et Amélie Perrier, avec un fleuve débaptisé en Chine, avec des portables interdits sur le vélo aux Pays-Bas et une statue de Gandhi au Malawi. 18h50, bonsoir Bruxelles. L'Europe telle qu'elle vous ravit, telle qu'elle vous l'aimez ou telle qu'elle est absurde, racontée par Quentin Dickinson. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, Erdogan et Merkel qui sera bivoche, mais qui est le gagnant dans ce face-à-face exactement? On le verra tout à l'heure. Mais avant, on essaye de cerner l'homme le plus recherché du monde, le plus cruel sans doute, peut-être mort d'ailleurs, et au fond, est-ce que ça change quelque chose? Aboubakr el-Baghdadi et un livre écrit à son sujet, Le monde est vaste, et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
C'est donc l'un des personnages les plus cruels, peut-être aussi les plus énigmatiques finalement de cette période terrible qu'on vient de traverser avec Daesh pour horizon. Une période, on le sait, qui s'est refermée puisqu'il n'y a plus d'État islamique, mais tout ce qui était charrié, tout ce qui était véhiculé par cet homme existe évidemment encore. Aboubakr el-Baghdadi, le calife de la terreur, l'homme qui a voulu, l'homme qui a créé, l'homme qui a façonné le califat entre l'Irak et la Syrie, l'homme qui a façonné Daesh. Bonsoir Sophie Amara.
Bonsoir.
Vous avez voulu savoir ce qu'il a emmené là en fait, cet homme-là, cette entreprise de cruauté épouvantable qu'il a mise sur pied dans un livre qui s'appelle Baghdadi, calife de la terreur. Quel mystère quand même cet homme. On a vu son visage une fois, finalement une seule fois, tout le monde s'en souvient, c'était là, à la mosquée de Mossoul. D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'il est en vie? Est-ce qu'on peut avoir même cette certitude-là aujourd'hui ou pas?
Oui, il a été donné pour mort à plusieurs reprises par les autorités irakiennes et cela a été démenti à chaque fois. Aujourd'hui, on est quasiment certain qu'il est vivant et on sait même où il se trouverait, c'est-à-dire dans la région frontalière entre la Syrie et l'Irak, et il serait plutôt du côté syrien que du côté irakien, mais on est quasiment certain qu'il est vivant. En tout cas, il l'était il y a quelques semaines et il n'est pas mort l'été dernier comme cela a été annoncé à plusieurs reprises par divers médias.
Donc zone désertique, sans utiliser évidemment les moyens modernes de communication. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de monde autour de lui ou si c'est devenu une sorte d'ermite?
Non, il y a quelques hommes autour de lui. Il y avait son fils qui a pris les armes dès l'âge de 15 ans et qui est mort à 18 ans en combattant les forces régulières syriennes il y a quelques mois. Mm-hmm. Et aujourd'hui, Aboubakr el-Baghdadi est avec un de ses gardes du corps. Quelques hommes, normalement il était avec son fils, mais son fils a été tué. Et dans un message audio qui a été diffusé récemment, on a eu, puisqu'on peut dater ce message, parce qu'il a donné des informations qui permettaient de dire qu'il était encore en vie il y a quelques mois, eh bien on sait que cet homme est toujours vivant, même s'il se cache, même si c'est l'homme le plus recherché de la planète, et qu'il y a évidemment, sa tête a été mise à prix, 25 millions de dollars, par les États-Unis d'Amérique.
Alors on va revenir un peu en arrière, juste une question encore là-dessus. Au fond, est-ce qu'on a encore besoin de lui, de toute façon, quand on est djihadiste? Est-ce qu'il sert encore à quelque chose? Est-ce que sa figure représente encore quelque chose? Ou est-ce que finalement, l'organisation est bien plus forte que lui? Hélas, bien sûr, mais c'est ça qu'il a créé.
C'est une question très importante. En effet, aujourd'hui, il est en fuite. C'est un fugitif. Il se sait traquer. C'est l'homme le plus recherché de la planète, je le disais à l'instant. Mm-hmm. Cela étant dit, son importance, en fait, qu'il soit vivant ou mort, c'est ce que je dis à la fin de mon livre.
N'a aucune importance. Vous avez raison.
N'a pas d'importance aujourd'hui, mm-hmm, peut-être. Mais il reste une référence pour tous ceux qui ont cru en l'idéologie qu'il a véhiculée, mm-hmm, et qu'il a pu inscrire sur le territoire, puisqu'il a pu créer un djihadistan où ont vécu 7 millions d'habitants. C'est quand même énorme pendant des années avant que la coalition ne parvienne à l'en déloger, en tout cas sur le terrain. Et cette idéologie, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte et on est aujourd'hui, on la retrouve pour avoir rencontré des djihadistes en prison, pour avoir rencontré des repentis djihadistes européens. Cette idéologie existe encore et c'est lui qui l'a inscrite sur le terrain et c'est pour ça qu'il l'a renforcée.
Et c'est pour ça que vous dites effectivement que vivant ou mort, au fond, vu les dégâts qui ont été faits aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est toujours fascinant dans ce personnage quand même, si on le compare à Ben Laden en gros, c'est précisément que Ben Laden, on avait l'impression qu'il aimait son image en fait. Il l'a montré tout le temps, il se mettait en avant lui. C'est une je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, en tout cas c'est une stratégie qui n'a pas été celle de Baghdadi.
Tout à fait, d'ailleurs cette stratégie ne l'a pas empêché de rester et d'échapper aux Américains pendant presque une décennie, hein, puisque les attentats de 2001, c'est 10 ans après les attentats de 2001 qu'il a pu être neutralisé définitivement, donc tué. Mais c'était un petit peu le gentleman terroriste, bien habillé, toujours très soucieux de son image, tandis que Baghdadi c'est tout l'inverse. Baghdadi, ce qu'il a voulu véhiculer, c'est des images d'horreur, des images de décapitation, des images d'attentats dont il s'est réjoui sans jamais lui se mettre en scène, parce que lui, il a été d'ailleurs surnommé par ses hommes le fantôme, Al-Shabaab, et c'est un homme qui se cache, un homme qui ne cherche pas la lumière parce qu'il n'est pas capable de résister à la lumière, parce que c'est un falot, il n'est rien, Baghdadi n'est rien, et c'est là justement l'importance du livre, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que je me suis beaucoup inspirée de Hannah Arendt, qui est pour moi une des femmes les plus importantes du XXe siècle et qui nous a évidemment appris le concept de banalité du mal, Adolf Eichmann, qui était le petit fonctionnaire, après on est d'accord ou pas, le petit fonctionnaire qui a fait marcher la machine de mort d'Adolf Hitler. Là, c'est l'inverse. C'est le concept inversé, puisque Baghdadi n'est rien du tout. Mais là, le mal a été retrouvé chez tous ses adeptes. Donc, que ce soit lui ou un autre, il y a une volonté, en tout cas, il y a une adhésion de la part de dizaines de milliers de personnes à cette idéologie.
Alors quand vous dites qu'il n'est rien du tout, effectivement, et c'est ça qui est fascinant dans votre livre, quand on voit le jeune Baghdadi, effectivement, n'est rien du tout. C'est pas un gamin brillant du tout, c'est pas un beau parleur du tout. Il aime le foot, ce qui est quand même très paradoxal quand on pense qu'il l'a interdit à la seconde où il a mis en place son qualifié ici et là. Il est pas bon à l'école du tout, il voulait être médecin, c'est pas possible, il voulait être avocat, c'est pas possible non plus. C'est quand même dingue de s'imaginer, même les proches que vous avez rencontrés disent, mais quand on a su qu'il était qu'il dirigeait le califat, on est tombé de notre chaise.
Exactement. Et c'est là toute l'horreur de l'histoire de Baghdadi. Ce n'est pas que cet homme est validé et émis des fatwas pour légaliser des crimes contre l'humanité, de l'esclavagisme des femmes yazidis, la déportation des chrétiens d'Irak. Tout ça, ce sont des crimes gravissimes, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais au-delà de tout cela, ce que je montre dans le livre, c'est que même ce petit falot, cet avocat raté, qui voulait pourtant être au barreau de Bagdad et qui même voulait travailler dans l'armée, mais il était myope, donc il n'a pas réussi à rentrer dans l'armée irakienne. Et plus tard, il décapitera des soldats irakiens pour avoir collaboré, selon lui, avec l'ennemi impie ou avec un état impie. Cet homme-là, falot, mauvais élève, joueur de foot, comme somme toute, tous les garçons des petits garçons de la terre.
Mais il était bon, apparemment.
Il était très très bon, à tel point qu'un de ses camarades, Maradona, et un de ses camarades me disait toujours, on priait qu'il se casse une jambe pour pouvoir enfin marquer un but.
Ce qui est quand même fou.
Et il était bon que là-dedans, apparemment. Et du coup, malheureusement, et même un falot pareil a réussi à fédérer des troupes derrière lui, donc acquise à une telle idéologie.
Alors, le tournant, on va dire, il y a plusieurs formes de tournant. Le premier, c'est probablement la première invasion des Américains en 1991, l'Irak qui se transforme à ce moment-là. Mais ce qu'on réalise surtout en lisant votre livre, c'est jusqu'à quel point toute cette idéologie, la sienne et celle de ceux qui vont suivre, c'est le produit de cette colère, en fait. Celle de 91 chez les Irakiens et celle de 2003 après. Sans ça, sans ces invasions-là, il n'y a pas de Baghdadi, en fait.
Sans ces invasions-là, il n'y a pas de Baghdadi, mais j'irai plus loin que cela. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 2006 et 2007, les mouvements Sahwas, les awakenings en anglais, c'est-à-dire l'éveil finalement, les tribus sunnites qui ont décidé de combattre le terrorisme, considérant que de toute façon, l'occupation finirait par partir et qu'il fallait justement neutraliser les djihadistes qui étaient devenus incontrôlables. Eh bien, ils ont mis par terre l'EII, qui est l'État islamique d'Irak, qui existe depuis 2006. On l'oublie, on a tendance à dire « oui, c'est un phénomène venu de n'importe où ». Et donc toutes les théories du complot, évidemment, qui tiennent pour responsable Tel Aviv, Washington, même Paris, on nous a condamnés d'avoir créé Daesh. Enfin, c'est absolument ridicule. Et évidemment, elle existe. Mais ce qui a permis à Baghdadi, justement, après ces mouvements-là qui ont tenu en défaite les djihadistes, il y a eu la révolte syrienne. Et c'est grâce à la Syrie que Baghdadi a redopé son mouvement qui était complètement mourant, qui était vraiment sur sa fin de vie, eh bien, il a pu redoper le mouvement grâce à la révolution syrienne et notamment grâce au fait que Bachar el-Assad est sorti de ses prisons, des djihadistes qui se battaient en Irak, envoyés par Damas pour mettre mal les Américains. Il en a ressorti des centaines en mai 2011, après le début de la révolte.
Alors ça, effectivement, c'est évidemment un épisode important. À quel moment, parce qu'au début, le djihad en Irak, c'est Zarqawi, en fait. On se souvient de ce personnage-là qui a prêté allégeance à Ben Laden, c'était avant qu'il ne meure. À quel pile moment, et c'est très étonnant, on sent que Baghdadi prend le dessus, en fait, arrive à écraser les autres, y compris en leur mentant d'ailleurs, en disant qu'il fait allégeance à Al-Qaïda, alors que ce n'est pas vrai.
Tout à fait. En fait, ça n'est pas lui. Ça n'est pas Baghdadi. Baghdadi n'était pas assez intelligent, pas assez brillant, pas assez retors. C'était un arriviste. C'était un laborieux de la carrière. Mais ça n'était pas lui. Derrière lui, il y a un homme. Il y a le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est un homme des renseignements, un homme carré. Selon une enquête de Der Spiegel, brillante, de nos confrères allemands, on n'a même pas trouvé un Coran dans la maison de cet homme, parce que cet homme était un nationaliste. Il était laïque, comme le régime de Saddam.
J'allais dire, c'est un admirateur de Saddam. C'est très important de savoir qu'il aime le côté panarabique de Saddam et sa cruauté.
Et sa cruauté, mais par contre, il n'aimait pas sa laïcité, qui était le seul aspect positif de Saddam, qui de toute façon, vers la fin de son règne, a quand même donné dans l'islamisme, puisqu'il sentait que dans sa population, il n'avait plus assez de légitimité et qu'il est allé vers l'islamisation de la société, sans lui-même en être un adepte, mais certains ne sont pas d'accord avec cette version. Toujours est-il que l'homme qui a créé Baghdadi, qui a aidé Baghdadi à ruser pour arriver là où il est, c'est un nationaliste irakien qui s'appelle Haji Bakr, qui est un ancien responsable dans l'armée irakienne de Saddam Hussein, et c'est lui qui a permis à Baghdadi de se hisser jusqu'à la tête de son califat et de son état de la terreur, parce qu'il avait, lui, une expérience des renseignements pour avoir travaillé pour le régime de Saddam Hussein. En quelque sorte, Baghdadi et Daesh, ça a été la fusion de deux horreurs, l'horreur des renseignements d'une dictature brutale qui était celle de Saddam Hussein, et l'horreur de la dictature de l'islam ou de l'islamisme, c'est-à-dire Daesh.
Et alors, avec deux passages en prison aussi qui ont été très importants, j'allais dire, il y a un passage par Abu Ghraib qu'on découvre grâce à vous, parce qu'on l'ignorait, et un passage par la prison de Baqa qui était des espèces d'incubateurs, en fait, de djihadistes. Il y a autre chose, puisqu'il faut aller un peu vite, qui m'a beaucoup intriguée dans votre livre, c'est sa femme.
Tout à fait.
Quel drôle de personnage, en fait.
Incroyable. Tout a commencé après avoir rencontré sa femme, ce qui était un peu un scoop, puisqu'évidemment, c'était la femme de Baghdadi et sa fille. Donc, j'ai rencontré la femme et la fille de Baghdadi. C'est un personnage incroyable.
Pas restée longtemps avec lui, d'ailleurs. Elle est partie assez vite.
3 mois. Voilà. Elle a fui, enceinte, ne sachant pas qu'elle l'était. Et puis, quand elle a découvert qu'elle l'était, elle l'a contactée. Il l'a menacée plusieurs fois. Il la menace toujours, d'après elle, de reprendre l'enfant, parce qu'elle s'est remariée. La condition pour lui laisser l'enfant, c'était qu'elle ne se remarie pas, évidemment, en bon match. Irakien.
Et elle l'a fait quand même parce que sacrée personnalité. Alors, une famille de dingue, pardon.
Tous
ils sont tous djihadistes là-dedans. Enfin,
tous terroristes. Ouais. Tous terroristes. Leur cœur balance entre Al-Nusra, d'Al-Qaïda et Daesh. Certains en ont été les fondateurs, dont le père de Saja. Elle s'appelle Saja. On la surnomme la calife. Et donc, c'est une femme très puissante. En même temps, rusée, et qui a réussi à rester en contact avec les djihadistes, même après son divorce d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ça en dit long sur le personnage. Et sa petite sœur, à 16 ans, a tenté par deux fois de faire un attentat, de commettre un attentat suicide de se faire sauter dans un lieu.
Et elle est en prison.
Elle vient d'être relâchée. Après 10 ans en prison de 16 à 26 ans, pour avoir tenté de se faire exploser à Erbil et une fois à Bagdad avec une ceinture explosive, avec l'accord de son papa.
Juste en parenthèse, c'est dans un camp palestinien au Liban que vous avez rencontré l'ex-femme donc,
non,
de Baghdadi.
Non, j'ai dû l'en sortir parce qu'elle avait peur.
Exactement.
J'ai dû l'en extraire. Oui.
Pour l'interroger, vous l'en avez extraite. Il y a un rôle des femmes dans l'entourage de Baghdadi qui est extrêmement important, en fait, qui est terrifiant parfois, notamment avec les yézidis, mais qui est aussi très intéressant. Il y a cette phrase que vous dites, lui considéré, puisqu'on va créer un État, de toute façon, il faut bien qu'il y ait des femmes. Donc, amenez-moi des femmes. C'est ça qu'il disait, en fait.
Tout à fait. Et il disait, je n'ai jamais vu un État où il n'y a pas de femmes. Une lapalissade qui en dit long, c'est ce que je dis dans le livre, sur le personnage, comme si on pouvait effectivement vivre sans femmes. Mais pour lui, les femmes ne sont pas, sont soit des objets sexuels. Et là, j'ai rencontré deux otages sexuels de Baghdadi, l'une de 12 ans et l'une de 15 ans, lorsqu'elle tombe en captivité entre les mains de ce personnage. Et d'ailleurs, je suis la seule à avoir vu cette petite avec la CIA. Et avant la CIA, elle a été entendue par la CIA parce que justement, elle a vécu aux côtés de Baghdadi, fui avec lui, et elle a été en contact avec une otage américaine, elle aussi violée par Baghdadi, Kayla Mueller, et qui est morte sous les bombes.
Sophia Mara, juste une dernière chose. Vous le disiez, effectivement, il est caché quelque part, le Baghdadi. Aujourd'hui, l'État islamique tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'a créé, n'existe plus. Mais est-ce que l'idée d'un État, justement, d'une zone géographique, a encore du sens pour ces gens-là? Ou est-ce qu'ils ont le sentiment que cette stratégie-là, cette stratégie de l'État, était finalement pas la bonne?
Pas du tout. Ils ont encore l'idée d'un État. Et la preuve la plus criante et la plus facile à vérifier, c'est le moufti de la mosquée de Mossoul où Baghdadi a déclaré son état, s'est autoproclamé calife.
La seule fois où on l'a vu.
Exactement. Et bien, 3 ans plus tard, l'imam de cette mosquée, qui était en poste depuis des années, a dit, écoutez, cette fois-ci, ce califat, il n'était pas très bien, mais un jour, on en fera un meilleur. Et puis, les minorités pourront vivre un peu plus en paix que celui qu'a créé Baghdadi. Et il n'a pas une seule fois critiqué les actions de Baghdadi tout en annonçant cela.
Ça se lit comme une histoire terrifiante, forcément. Baghdadi, calife de la terreur, signé Sophia Amara, c'est publié chez Stock. Merci beaucoup.
C'est à paraître le 3.
C'est à paraître le 3, absolument. Merci.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde à Gaza avec Étienne Monin. Gaza que l'on fuit forcément, mais sans retour, dès qu'on le peut. En tout cas, c'est ce que nous racontera Étienne Monin. Sous les radars avec un nom de fleuve qui change en Chine, tenez-vous bien, parce qu'il sonne trop musulman, sérieusement. Des portables interdits aussi sur les vélos aux Pays-Bas. Bonsoir à Bruxelles et Quentin Dickinson qui, toutes les semaines, nous raconte l'Europe telle qu'elle a, dans ce qu'elle a de pire et dans ce qu'elle a de meilleur. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous, c'est le monde à l'envers et la rencontre Erdogan-Merkel aujourd'hui. C'est elle qui accueille, mais c'est lui qui pilote, non
un peu ? C'est un peu ça, l'Allemagne et la Turquie se rabibochent, mais c'est Erdogan qui tient la barbichette de Merkel.
Allez, le tour de la planète continue, il passe par Londres. Le groupe s'appelle LA Salami. Gin is gone, c'est le titre.
Was left wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me, well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother. He seemed to be so briefly my good French brother, but the friendship is no longer on. Jean is going. Said he'd leave, he leaves me no other option but to put my loyalties up for adoption. And it seems to be to me that weed leaves lives forgotten, and we used to smoke those leaves oh so very often, often and for very long. His nose could smell that I was smitten with that girl from across the road. You see, I was love bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But I cursed when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on.
LA Salami, vous connaissez LA Salami, Amélie Perrier ?
Mais ça me dit quelque chose.
Oh, mais ça menteuse, vous venez de me dire l'inverse à l'instant. La chanson s'appelle...
Oh, on peut faire semblant.
Oh, mais pas du tout, quelle menteuse. La chanson s'appelle Gin is Gone, mais vous, vous êtes bien là, ça c'est bon. Hein.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Radar, Amélie, hier on réhabilitait le prénom Florence. Aujourd'hui, on débaptise un fleuve.
En Chine, la rivière Ayi devient Dianong. Décision du gouvernement régional. Alors vous allez me dire quel était le problème avec le nom
Ayi.
Eh bien, ça sonnait trop arabe, apparemment, pour les dirigeants chinois. L'histoire racontée par le Global Times nous apprend que Ayi, affluent du fleuve jaune qui arrose le Ningxia, est une région c'est dans une région autonome où un tiers des habitants sont musulmans. Eh bien, Ayi évoquerait trop le prénom Aïcha. Il faut savoir que le président Xi Jinping veut siniser les religions, c'est-à-dire les rendre le plus chinoises possible. Le régime impose par exemple aux églises et aux mosquées d'afficher la constitution de la Chine et le drapeau rouge. 1 million de musulmans ouïghours au Kazakh ont été ou sont également internés dans des centres de rééducation politique. On prend peut-être un peu plus ainsi la mesure de l'accord historique signé par le pape François avec le régime communiste samedi, accord sur la nomination des évêques en Chine surtout.
Voilà, est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un Néerlandais ?
Eh bien, son vélo.
Bah oui.
On plaisante à peine avec le sujet aux Pays-Bas.
J'ai déjà 3 vélos et je compte bien en acheter un 4e.
Si tous les vélos étaient remplacés par des voitures, ça serait bien pire.
C'est le seul moyen que j'ai pour transporter mes enfants. Ce vélo, c'est ce que j'ai de mieux dans ma vie.
23 millions de vélos pour 17 millions d'habitants. Ouais, quand même.
C'est
conséquence.
Fou, hein.
Mais conséquence, les embouteillages de bicyclettes, les parkings à 2 roues pleins à craquer et puis les accidents. Car si on encourage les citadins à prendre leur vélo plutôt que leur voiture, on retrouve parfois les mêmes problèmes. D'où cette mesure prise par les autorités néerlandaises. Elles vont interdire le téléphone portable à vélo et imposer la même amende qu'en voiture, 230 euros.
Ça rigole pas. Une statue pour Gandhi.
Et ça se déroule pas en un nom, mais en Afrique, dans un petit état qu'on a souvent du mal à placer sur la carte, le Malawi. Vous situez à peu près,
absolument,
Fabienne ?
Évidemment.
Bon, allez, je vous aide, c'est dans le sud-est du continent, clavé entre la Zambie, la Tanzanie et le Mozambique. Effectivement, bien joué. Le gouvernement malawite, là-bas, eh bien, il vient d'autoriser l'installation d'une statue du Mahatma à Blantyre, la capitale économique du pays. Grosse polémique, les opposants reprochent à Gandhi de n'avoir rien à faire avec le Malawi. Des débats acharnés sur des groupes WhatsApp notamment. Il faut savoir que dans ce pays très pauvre, si les habitants vivent avec des coupures de courant de plusieurs heures chaque jour, eh bien la messagerie instantanée y est très développée. Pourtant, la statue sera financée par les autorités indiennes qui ont aussi un projet de centre de conférence internationale Mahatma Gandhi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Malawi, il y a une grosse communauté indienne. C'est une ancienne colonie britannique. Cette grosse communauté indienne, elle est arrivée il y a plusieurs générations comme main d'œuvre pour construire les chemins de fer à la fin du 19e, début du 20e siècle.
Amélie, vous voulez qu'on reste au Malawi? Pourquoi
pas?
Parce que c'est là que se déroule ce week-end le plus grand événement culturel de l'année.
Le festival Lake of Stars sur les bords du lac Malawi qui occupe une grande partie du territoire. Le lac des étoiles, on l'appelle ainsi en référence aux petites lumières des pêcheurs qui vont chercher le poisson la nuit. Le festival créé il y a 15 ans a pour ambition d'encourager le tourisme au Malawi, donc ce pays très pauvre, 179e sur 198 en termes de développement humain. Lake of Stars est devenu un rendez-vous réputé en Afrique, de quoi attirer des têtes d'affiche.
C'est pas Major Lazer.
Ouais, ce sera samedi au bord du lac Malawi. On pourra voir sur la scène donc également de la plage de Leopards Bay des artistes malawites comme le Madali Tsoband.
Redites-le pour voir.
Le Madali Tsoband.
Okay.
Oh mince, j'avais répété. En plus. Et encore ce DJ, il est aussi malawite, Drew Moyo.
Allons-y.
Moi j'aime beaucoup, c'est malawi.
Oui, et puis c'est intéressant, une scène de musique pareille dans un si petit pays, si
exactement.
Pauvre effectivement.
Ils auront à peu près 4500 spectateurs a priori sur tout le week-end au Malawi. C'est donc pour inciter les touristes à aller visiter ce magnifique pays. Vous savez comment on le surnomme le Malawi?
Non, vous allez me le dire.
The Warm Heart of Africa, le cœur chaud de l'Afrique.
C'est
tout
beau.
À fait mérité.
Allez, Amélie Perrier, merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mexica. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est à Gaza que nous emmène l'Esclale, le reportage d'un jour dans le monde ce soir. Le Proche-Orient est en première ligne aujourd'hui à l'Assemblée des Nations Unies. Ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de tenter de sauver l'accord de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'UNRWA qui gère des millions de réfugiés et qui menace de fermer à la mi-octobre après le retrait financier des États-Unis. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, correspondant de France Inter à Jérusalem, l'UNRWA nous intéresse principalement pour Gaza, qui est étouffée, on le sait, Gaza, et la conséquence chez les jeunes notamment, c'est une vague de départ, et c'est ce reportage que vous nous proposez, l'exil à Gaza.
On est contre l'une des frontières de Gaza, pas loin de la ville principale. Il fait nuit, quelques dizaines de jeunes se sont rassemblés. Ils se chauffent la voie avant d'avancer vers la barrière de sécurité gardée par les viseurs nocturnes des soldats israéliens. Ces jeunes incarnent une forme de désespoir. Mais ils ne comptent pas passer la frontière pour échapper à leurs conditions. Leur avenir est lié au conflit. Ils sont les mèches lentes du Hamas, rallumées il y a quelques semaines pour faire pression sur Israël. Abdelatif, jeune Gazaoui prêt à risquer sa vie ce soir à la frontière.
On est le groupe de déstabilisation nocturne. On coupe les barbelés, on terrorise les Israéliens. On vient là parce que même si on travaille la journée, on gagne 5 ou 7 euros par jour. C'est rien du tout. Il n'y a pas d'argent. Notre problème à nous, c'est les Israéliens, c'est tout. Soit on vit correctement, soit on meurt.
Ici, c'est l'autre frontière pour l'autre jeunesse. On est au sud de l'enclave, dans un gymnase. Des centaines de personnes attendent de pouvoir monter dans un bus pour traverser la frontière du côté égyptien. Yad Rabou a 21 ans. Il veut faire sa vie en dehors de Gaza, à l'étranger.
La majorité des jeunes de ma promotion, soit ils sont tous partis, soit ils sont comme moi, ils attendent pour partir. Pour dire la vérité, à Gaza, il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'avenir. Là, j'ai 3 bagages avec moi.
Ces jeunes qui partent ouvrent une voie. Abou Zeid est en train de préparer son envol. Cette année, 2 de ses fils sont partis. Ils se sont installés en Turquie. Le plus âgé a trouvé du travail dans l'immobilier, faute d'horizon à Gaza.
C'est lui qui a pris cette décision. Il a fini ses études fin 2014 et depuis il n'a pas trouvé de travail. Il a essayé, mais il est resté 3 ans sans rien faire. Ça a été trop dur pour lui. Il n'avait pas le moral. Donc au lieu de rester à rien faire, il a voulu tenter sa chance. Mais il n'y avait rien pour lui là-bas quand il est parti.
D'après les chiffres de l'autorité palestinienne à la frontière, près de 17 000 personnes n'ont pour l'instant pas remis les pieds à Gaza après avoir passé la frontière depuis le mois de janvier dernier. Dans les agences de voyage, on décrit à la fois un phénomène nouveau et important. Mahmoud Faraj dirige l'agence Marrakech.
Le fait de partir pour les études, ce n'est pas un nouveau phénomène. Ce qui est nouveau, c'est que les jeunes partent pour l'inconnu. Et ce que je veux dire par l'inconnu, c'est des pays lointains comme l'Europe, la Suède et les pays scandinaves. Tout cela, c'est à cause de la situation économique très difficile et à la perte d'espoir des gens dans la bande de Gaza.
Ceux qui partent sont souvent diplômés, ils ont les moyens financiers de payer le passage de frontière, puis l'installation. Ils profitent de la réouverture du poste égyptien, resté quasiment hermétique pendant des années jusqu'au printemps dernier. Mais c'est avant tout une fuite, regrette Abou Zeid, le père qui a vu partir son jeune fils universitaire et le plus âgé diplômé.
C'est une façon de fuir la réalité. Il n'y a pas de plan derrière, c'est une fuite. La réalité ici est dure, très noire. Il n'y a aucun espoir. Alors peut-être que mon fils va trouver une meilleure vie, un espoir et un travail. Ici, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir et pas de travail. On est prisonnier.
À Gaza, l'espoir est devenu une denrée rare. Les négociations de cet été au Caire n'ont rien donné. Elles ont au contraire renforcé les divisions politiques. Le Hamas rejette aujourd'hui la légitimité du président Abbas qui détient pour Gaza le pouvoir financier. Hazem Kassem est l'un des porte-parole du Hamas.
La légitimité du président Abbas a été entamée par beaucoup de facteurs. Son mandat comme président est terminé. Il est en train de perdre le consensus palestinien. Le président a échoué sur ce qui était les buts du peuple palestinien. Il a échoué sur la réconciliation et le plus dangereux, ce sont les sanctions qu'il a imposées à une grande partie du peuple palestinien. C'est sûr qu'il manque de légitimité.
L'inquiétude est aussi alimentée par l'étranglement financier décidé par le président palestinien. La situation s'aggrave avec le retrait financier des États-Unis. Gaza entre dans l'inconnu, dit Omar Chaban, économiste. Il dirige le centre de recherche Palfic.
Gaza ne peut pas survivre à tous ces éléments. Gaza est trop petite, trop pauvre. L'enclave traverse déjà une période très difficile. Ah, les nouvelles mesures de l'autorité palestinienne et de l'administration américaine contre l'agence des réfugiés, qui est le deuxième employeur de Gaza, les gens sont très frustrés. Les magasins ne font pas d'argent. Beaucoup de chefs d'entreprise sont en prison parce qu'ils n'ont pas pu régler leurs dettes. J'ai du mal à imaginer ce qui va se passer maintenant.
Et l'inquiétude est telle que l'ONU et la Banque mondiale préviennent aujourd'hui d'un risque de rupture à Gaza.
Étienne Monin avec nous depuis Gaza. Merci Étienne, on va revenir un petit peu sur ce thème-là d'ailleurs dans un instant. Tony Henscher, I got you babe.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, Quentin Dickinson est là.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe telle que vous l'aimez, telle que vous la détestez, telle qu'elle vous déroute, telle qu'elle vous enchante. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Quentin Dickinson.
Tout ça Fabienne, bonsoir et bonsoir à tous.
Quentin, vous nous ramenez en Palestine, où nous étions tout à l'heure avec Étienne Monin. La plus grosse part de l'aide palestinienne, on le sait, ce sont les 28 qui la fournissent, mais c'est tout l'objet de ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui. Ils considèrent que les Israéliens ne leur facilitent pas la tâche.
Non, pas vraiment, et ce serait même plutôt le contraire. L'Union européenne intervient dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans un cadre d'abord humanitaire, en fournissant en particulier des produits pharmaceutiques de première nécessité. Mais l'aide européenne comprend aussi la construction de bâtiments en dur pour les ports et aéroports, pour les hôpitaux, pour les immeubles administratifs et pour les écoles. Mais voilà, assez systématiquement, ces bâtiments sont rasés sur ordre des autorités israéliennes, comme le déplore le député européen écologiste français Pascal Durand.
En fait, il y a une double question. Est-ce que c'est normal ? La réponse est évidemment non. Est-ce que c'est la routine ? Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que dans la zone C notamment, la zone qui est occupée de manière illégale d'après le droit international, systématiquement tout bâtiment, mais que ce soit des écoles, des puits, tout ce qui est lié au bien-être ou à l'éducation ou à la santé ou à la culture, est systématiquement détruit par l'armée israélienne. Et ensuite, évidemment, l'Union européenne a financé et demande le remboursement et ne voit rien arriver.
Et donc l'Union européenne reconstruit.
Alors l'Union européenne reconstruit, parce que c'est évident qu'on peut pas laisser des villages, par exemple, sans accès à l'eau potable. C'est la réalité, c'est que l'armée et l'occupation israélienne souhaiteraient que ces villages soient privés d'eau, soient privés d'école, soient privés de soins et de lieux de santé, parce que les populations partiraient. Le but de cette occupation est de faire partir les Palestiniens, et donc que les villages, petit à petit, se vident de leur population.
On vient de l'entendre, la Commission européenne réclame avec force le remboursement des sommes investies par elle au service des populations israéliennes, mais jusqu'ici en vain. Et elle se résigne à financer la reconstruction des biens démolis ou, variante, saisis et accordés à des colons israéliens.
Quentin, on sait combien ça coûte aux contribuables européens ou pas ?
Oui, on a une idée en fait bien précise. De 2009 à 2017, l'Union européenne n'a pu que constater la destruction ou l'aliénation de près de 450 immeubles financés par elle pour un coût dépassant 1 300 000 euros. La tendance à détruire le produit de la solidarité européenne avec des populations civiles dans une situation d'incontestable détresse s'accélère depuis le début de cette année. On a actuellement atteint le rythme de 33 démolitions ou spoliations par mois. Désormais, la délégation de l'Union européenne en Cisjordanie et à Jérusalem publie tous les semestres les statistiques de celle-ci. De janvier à juin de cette année, peut-on lire dans leur dernière livraison, 197 immeubles ont connu ce sort, dont 26 entièrement financés par les Européens pour un coût de 60 963 euros exactement.
Et Quentin, juste rapidement et en un mot, comment les autorités israéliennes justifient ces actes ?
On ne peut pas dire qu'elles cherchent particulièrement à communiquer sur la question. L'explication officielle, c'est que ces bâtiments nouveaux n'ont pas reçu de permis de bâtir. Or, à Jérusalem-Est, seul 1% de la superficie fait l'objet d'un plan d'urbanisme, taux qui est de 13% en Cisjordanie. Mais ces zones sont déjà largement construites et à tout moment, le gouvernement israélien peut choisir de détruire les immeubles édifiés sans délivrance de permis, ce qui, poussé à l'extrême, autoriserait la destruction d'un tiers de l'habitat palestinien à Jérusalem-Est et mettrait à la rue plus de 100 000 personnes.
Quentin Dickinson, merci beaucoup en direct de Bruxelles pour Un Jour dans le Monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, après plusieurs années de brouille, il semblerait que les Allemands et les Turcs soient en pleine réconciliation. C'est l'objet de la visite à Berlin du président turc Erdogan. Il est arrivé à midi, il va rester 3 jours. Mais aujourd'hui, entre Erdogan et Merkel, le plus puissant des deux n'est pas forcément celui qu'on croit, et c'est votre monde à l'envers.
Alors d'abord, on se dit que cet après-midi, l'Allemagne a battu la Turquie puisqu'elle a décroché l'organisation, vous savez, de l'Euro de football de 2024. Et on sait à quel point ce type d'événement sportif a une portée politique. Et on aimerait de la même manière pouvoir dire que nos amis et partenaires allemands, du haut de leur puissance économique, ont la main dans la relation avec Ankara. On aimerait ajouter qu'ils sont à même d'influencer le président turc afin qu'il cesse d'emprisonner les opposants et de restreindre la liberté de la presse. On aimerait bien, mais dans la relation Merkel-Erdogan, c'est sans doute davantage le second qui est aujourd'hui en position de force, en effet. Il n'y a pas de hasard, il est reçu en grande pompe pour cette visite à Berlin. Honneur militaire sur le tarmac, s'il vous plaît, à son arrivée. Grand banquet d'État demain soir. Double entretien en tête-à-tête avec la chancelière allemande et conférences de presse communes demain matin. C'est tout simple, le président turc semble pour l'instant indéboulonnable, que ça nous plaise ou non. Il a été réélu assez facilement, il y a 3 mois. Et son profil est dans l'air du temps, si vous voulez. Les hommes forts à la Orban, à la Trump, à la Poutine. En face, Angela Merkel est affaiblie dans une ambiance de fin de règne et en plus, elle doit tenir compte des 3 millions de personnes d'origine turque qui vivent en Allemagne. En juin dernier, elles ont voté à 63% pour Erdogan. En résumé, donc, le président turc semble aujourd'hui politiquement plus fort que la chancelière allemande.
Sauf que économiquement, il n'y a pas photo.
Alors là encore, il faut un peu se méfier du premier coup d'œil. C'est vrai que l'économie turque traverse une mauvaise passe. Elle est plombée par la chute de la monnaie nationale, la livre, par la guerre commerciale avec les États-Unis, l'inflation s'accroît. Les prévisions de croissance sont révisées à la baisse, ça va pas fort, c'est vrai. Et la Turquie a besoin de l'Allemagne puisque c'est son premier partenaire commercial. Mais il faut pas s'y tromper dans le sens inverse. L'Europe en général et l'Allemagne en particulier ont tout autant besoin de la Turquie et d'une Turquie surtout prospère. 7500 entreprises allemandes, j'ai bien dit 7500, sont présentes en Turquie. Nombre d'entre elles cherchent à y décrocher de nouveaux marchés. Exemple, Siemens qui vise actuellement un contrat Maus costaud de ligne à grande vitesse. 35 milliards d'euros, c'est le chiffre évoqué. La Turquie a des soucis économiques, c'est vrai, mais ils ne doivent pas dissimuler l'essentiel. Nous sommes en présence de la 17e économie mondiale tout de même, avec l'an dernier la plus forte croissance du G20, avec une population de 80 millions d'habitants, avec des jeunes très nombreux et éduqués, le tout à la confluence de l'Europe et de l'Asie. Un gros potentiel économique à moyen terme et une place à prendre pour l'Europe au moment où Ankara se fâche avec Washington.
Alors, objection quand même, là encore, votre honneur, on a quand même bien compris que l'Europe a fermé la porte à la Turquie, non ?
Oui, elle l'a fermée, c'est vrai, sur le plan de l'adhésion politique, et sans doute pour longtemps, mais elle ne peut pas pour autant ignorer le poids géostratégique de la Turquie. Il s'accroît. Et ce poids, il s'exprime d'abord, on l'a expliqué 20 fois ici même sur le dossier des réfugiés. Erdogan joue donc les gardes frontières pour l'Union européenne. On connaît le deal. Hein. 2 fois 3 milliards de subsides bruxellois contre 3 à 4 millions de réfugiés syriens retenus en quelque sorte en Turquie. Et du coup, le président turc possède une carte maîtresse, presque un argument de chantage vis-à-vis de l'Allemagne, qui est la destination la plus prisée par les migrants. Continuez de m'aider, sinon j'ouvre les vannes. Pardonnez-moi l'expression, mais en effet, Recep Tayyip Erdogan tient Angela Merkel par la barbichette. Et pour compléter le tableau, le président turc est en train de s'imposer comme un bon tacticien sur la scène régionale. C'est lui, on le sait, qui a obtenu de Poutine, sinon l'annulation, en tout cas le report d'une offensive sur l'enclave rebelle d'Idlib en Syrie. C'est un acteur majeur aujourd'hui en Syrie. Donc oui, Erdogan apparaît plus fort qu'une Merkel à bout de souffle et qu'une Europe incohérente et divisée. Et donc non, ni les Allemands, ni plus généralement les Européens ne vont vraiment se fâcher avec lui, même s'il se moque éperdument des droits de l'homme.
Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour.